Bonsoir à toutes et à tous, il est 17h et vous êtes dans votre émission Sortez sur Radio Campus 99.5. Et aujourd'hui, j'oublierai pas, bonjour Alexandre.
Hey, bonjour tout le monde.
C'est la première fois que j'arrive depuis le début de cette émission à saluer mon collègue qui est tout, pourtant toujours là. Mais nous sommes aussi avec Coraline Cauchy du coup de la compagnie Serre Chaude. Bonjour Coraline.
Bonjour, bonsoir à tous.
Donc pour petit rappel, on y reviendra quand même. Mais...
ouais.
Coraline a déjà été reçue dans votre émission Sortez l'année dernière, je crois le 15 mai de ce que j'ai lu absolument, parce
ouais.
que je l'ai lu tout à l'heure. Mais... donc je vais vous laisser peut-être vous représenter d'abord, qui êtes-vous, qu'est-ce que
ouais.
vous faites, tout ça, tout ça.
Eh ben voilà, je suis Coraline Cauchy, je suis metteuse en scène et comédienne au sein d'une structure artistique qui s'appelle Serre Chaude, qui est basée à Orléans. Et là, je suis là aujourd'hui, et j'étais déjà là l'année dernière, dans le cadre d'une création qui s'appelle Bleu, une création de théâtre, mais on en reparlera, c'est vraiment théâtre et musique, qui est désormais terminée. On a été en résidence une bonne partie de l'année dernière, ici à Tours, au Volapük. Et c'était dans le cadre de cette résidence que j'étais venue parler avec Mathias, votre ex-collègue de Sortez. J'avais parlé du travail en cours, de là où on en était, des perspectives et tout ça. Et puis ben là, voilà, on est à peu près 6 mois, un peu plus que ça après. Le spectacle est créé, il est terminé. On a complètement achevé la création artistique. On a fait les premières représentations la semaine dernière. Et nous venons jouer à Tours demain, enfin après-demain. Voilà, on s'installe demain et on joue après-demain. Et donc voilà.
Et bah super, comme ça, au moins il y aura vraiment l'évolution.
Exactement.
Même radiophonique
ouais.
du coup.
Exactement.
Et depuis quand du coup vous êtes dans la compagnie ?
Alors la compagnie, elle existe depuis 2007. Elle a été fondée par Antoine Segara et par moi-même, donc il y a un petit peu plus de 10 ans, à notre sortie du Conservatoire d'Orléans. On avait envie d'avoir un outil de travail qui soit à nous, dans lequel on pouvait s'exprimer, avec lequel on pouvait créer nos propres spectacles sans forcément attendre qu'on nous appelle. L'un et l'autre, on avait des velléités à faire de la mise en scène, donc voilà, on avait besoin d'un espace de travail, quoi, d'un espace de pensée aussi, qui rassemble des gens avec qui on avait envie de travailler. Donc on a longtemps dit qu'on était un collectif, en fait en réalité c'est pas vraiment le cas, on a beaucoup fonctionné en compagnie et en un metteur en scène avec une équipe dirigée par ce metteur en scène. Et depuis 2012, j'impulse toute seule les projets artistiques au sein de Serre Chaude. Alors les projets, ils vont de création théâtrale à aussi des projets pédagogiques, il y a des interventions en milieu scolaire, des choses... avec des publics divers et variés. Et puis il y a toute une branche du travail qui est la partie lecture, lecture à voix haute, atelier de lecture, cercle de lecture, mise en espace de texte théâtral, mais donc avec le texte en main. Et aussi le croisement avec la musique qui est un peu plus récent, qui vient de ma collaboration avec Baptiste Dubreuil, qui est sur scène avec moi dans le spectacle Bleu. Et donc la branche musique commence un petit peu à se développer aussi en autonomie, même en dehors des spectacles de théâtre. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on aime bien dire qu'on est une structure artistique plutôt qu'une compagnie de théâtre. Le cœur, moi je viens du théâtre, j'ai fait des études de théâtre, je viens des textes, c'est ça qui m'intéresse. Les écritures contemporaines, c'est vraiment la ligne directrice du travail. Mais à côté, ben voilà, on développe tout un tas de choses autour de la littérature en général, de la musique, des arts plastiques si c'est possible. Voilà, selon les projets, on n'hésite pas à ouvrir les portes aux autres disciplines. Donc voilà, c'est pour ça qu'on préfère parler de structure artistique ou de laboratoire de création quand on est un peu, quand on a de l'humour.
Voilà. Bah, j'allais y venir justement sur cette formulation qui, je suppose, n'est pas choisie au hasard. Est-ce que c'est lié au fait que vous peut-être expérimentez des choses, testez de nouvelles choses un peu?
Ben oui, forcément, j'ai l'impression qu'en fait, quand on crée un spectacle, surtout nous, la manière qu'on a de faire des spectacles, c'est souvent à partir de textes. Donc il y a eu tout un tas de créations qui étaient des adaptations, soit des adaptations de romans ou même des adaptations de pièces de théâtre. Par exemple, un monologue qui devient une pièce pour 4 acteurs, enfin voilà, des choses comme ça. Toujours se re-questionner sur la place du texte à l'intérieur du spectacle vivant. Donc le côté laboratoire, c'est un peu ça, c'est comment est-ce qu'on fait de la recherche en art, et puis aussi parce qu'on expérimente et donc on n'est jamais sûr que ça va marcher, quoi. Donc c'est pas pour se cacher ou se prémunir, mais c'est plutôt pour assumer le fait que, et puis affirmer justement que on est dans une démarche d'expérimentation et qu'on essaye de baliser au maximum notre recherche et qu'on fait pas des choses pour se planter, quoi. On essaye toujours que ça fonctionne, mais voilà, parfois on va à des endroits où on sait pas, on n'a jamais été, et donc on... Avec les textes, par exemple, moi j'aime bien associer, par exemple dans le spectacle bleu, là, il y a une commande d'écriture qui est passée à une autrice, Clémence Veil, et puis il y a tout un travail d'écriture d'une version scénique qui est composée à partir de documents réels, enfin de podcasts, de radio, de choses comme ça, qui sont agglomérés en fait au texte. Et ça crée pour moi le texte de la pièce. Donc il y a un écart entre le texte écrit par l'autrice et le texte du spectacle. Et c'est dans cet écart-là que se crée notre zone artistique, notre zone de création. Voilà.
Oui, c'est la patte de plusieurs personnes, du coup.
Exactement.
Et pourquoi, du coup, le nom de la compagnie Serre Chaude ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça...
Ben, Serre Chaude, en fait, bon, déjà, au tout départ, c'est le nom du premier spectacle qu'on a monté au sein de la compagnie. Serre Chaude, c'est un recueil de poèmes de Maurice Maeterlinck. Donc, Maeterlinck, c'est un poète flamand. Et ben, déjà, en fait, au départ, on avait envie d'aller à des endroits un peu différents. On a monté de la poésie, on voulait pas monter une pièce de théâtre. Et ce premier spectacle, il a été assez fondateur dans l'esthétique de la compagnie, d'ouvrir justement aux disciplines et puis d'assumer les croisements interdisciplinaires. Alors, bon, beaucoup de compagnies font ça aujourd'hui et ça me semble important d'ouvrir. Mais bon, voilà, nous, c'était important aussi. Et puis, on s'amusait aussi de l'idée que la serre, c'était un endroit pour faire pousser les plantes de manière pas artificielle, mais pour les aider à se développer, pour les mettre des conditions vraiment hyper propices, quoi,
au développement. Dans un cadre sain.
Exactement, où il fait bien chaud, où les plantes, elles sont contentes de pousser. Et finalement, les spectacles, c'est un peu pareil, quoi. Des fois, ça prend du temps, donc c'est bien s'il y a une serre par-dessus pour aider un peu. Voilà.
Bah, c'est vrai que rien que le nom, c'est un nom qui apporte une sensation, rien qu'en l'entendant, on a l'impression qu'il fait bon directement,
ouais, ouais.
Je trouve ça fabuleux. Et du coup, ça existe depuis 2007, c'est
ouais,
ça ?
Ouais, c'est ça. La compagnie, elle a été fondée en 2007. Et puis, elle a donc eu cette première période d'existence où on avait une direction un peu bicéphale avec Antoine Segarra. Et à partir de 2012, voilà, j'ai continué à diriger la compagnie toute seule. Et puis, ça, c'était le moment aussi où moi, je faisais ma première mise en scène au sein de la compagnie. Donc, ça m'a permis de prendre un peu le lead sur la direction. Et puis d'impulser moi mes propres projets, mes propres envies. Donc voilà, ça s'est fait comme ça.
Et il y a combien de personnes du coup dans cette compagnie, enfin, cette structure ?
Ouais, voilà. Donc c'est un peu difficile à dire parce que donc moi je travaille au sein de Serre Chaude comme metteuse en scène et comme interprète. Je suis accompagnée souvent de la même équipe technique, en particulier Jonathan Doucher qui crée les lumières de mes spectacles depuis très longtemps et qui est un collaborateur fidèle et avec qui j'aime beaucoup travailler. Voilà, donc je suis très contente de pouvoir renouveler le travail avec lui. Il y a aussi Hélène Stanitsky qui est comédienne, qui vit à Tours. On se connaît depuis l'époque du conservatoire et on a fait plusieurs collaborations ensemble dans différentes configurations. C'était elle qui était comédienne, moi qui étais metteuse en scène. Et puis là, sur Bleu, c'est un peu différent. Moi, comme je suis sur scène, j'avais besoin d'un œil extérieur, donc j'ai fait appel à Hélène et on a un petit peu inversé le rapport de travail où elle faisait pas de mise en scène, mais elle a fait un vrai travail de direction d'actrice qui, moi, m'a beaucoup aidée. Et... Donc voilà, c'est pas des gens qui font vraiment partie de Serre Chaude, mais ils sont associés de manière étroite aux différents projets. Donc voilà. Et puis Baptiste Dubreuil, qui est mon partenaire sur scène et qui, lui, du coup, développe la branche musique de Serre Chaude. Et donc voilà, ce serait ça à peu près le noyau solide de Serre Chaude aujourd'hui. Mais évidemment, il y a d'autres gens qui gravitent autour selon les projets. Je pense à Violaine de Cazeneuve qui a travaillé sur la scénographie du spectacle, qui développe à côté du spectacle un projet d'exposition que vous pourrez voir jeudi au Petit Faucheux d'ailleurs, et qui est censé suivre un peu chaque fois qu'on jouera quelque part. Voilà, il y aura la présentation de l'exposition de Violaine. Alexis Renoux, qui est vidéaste et qui a réalisé pas mal de choses pour le spectacle, mais aussi pour des choses à côté, des documentaires autour du spectacle. Voilà, j'oublie un peu des gens. Je pense aussi à l'équipe administrative qui est fidèle et qui est très importante dans une compagnie qui est encore une petite compagnie régionale, quoi, on va dire. L'administratrice Muriel Briand, Sophie Dubosc qui m'accompagne sur tout le travail de diffusion. Voilà, pour faire venir les professionnels et puis qu'on ait de l'espoir pour que ça puisse rejouer ailleurs. Et puis Lorraine Chézière, qui est volontaire en service civique depuis le mois d'octobre et qui m'accompagne du coup sur toute la saison sur un poste voilà, d'accompagnement sur la communication, entre autres. Voilà.
Ben voilà, c'était ma prochaine question justement. À quoi sert le ou la service civique actuellement chez vous ?
Ben, Lorraine, donc elle est arrivée en octobre, elle est là pour 8 mois, donc elle va faire toute la saison, qui est une saison très très importante pour la structure cette année, puisqu'il y a non seulement la création du spectacle théâtral, mais il y avait aussi la création du spectacle musical de Baptiste Dubreuil qui s'appelle Véridube et qui sera présenté aussi au Petit Faucheux vendredi soir dans le cadre de leur programmation. Donc on avait vraiment à cœur d'intégrer à notre équipe une jeune volontaire ou un jeune volontaire. Il se trouve qu'il n'y a que des filles qui ont postulé, donc, donc voilà, on a intégré Lorraine à notre équipe et puis elle nous accompagne sur des missions de relais en communication. Donc c'est elle par exemple qui a fait en sorte que je sois parmi vous aujourd'hui, les relais presse aussi, et puis les relances auprès des professionnels, c'est une partie du travail qui est très lourde en fait, et qui est très formateur pour elle, puisqu'elle se destine ensuite à continuer dans la médiation culturelle. Donc voilà, il y a une espèce d'échange de compétences comme ça, et ça se passe très bien.
Et c'est la première année du coup que vous accueillez un service civique ?
J'avais une autre volontaire en 2017 qui était aussi sur un poste, enfin, faut pas dire un poste, puisque les volontaires ils sont pas sur des postes, vous le savez très bien.
Ah oui.
Mais voilà, sur des missions de communication aussi. Et c'est chouette, elle avait des compétences en graphisme, elle avait développé tout un tas de petits outils, des plaquettes de présentation, des flyers et tout ça. Et bah voilà, moi, c'est des choses que je ne sais pas faire. Et du coup, là, c'était super. Donc, c'est la deuxième fois. Et c'est super d'avoir des volontaires en service civique. Il se passe vraiment quelque chose. Il y a vraiment quelque chose d'humain qui se passe. Moi, j'aime beaucoup ce projet, quoi.
Vive les services civiques.
Oui,
on est les premiers à le dire. C'est cool. Et pour en revenir, c'est quoi le but de la compagnie ? Est-ce qu'il y a un vrai message derrière, ou c'est juste de propager de l'art ou
Ben, le but, c'est déjà ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est quand même d'avoir un espace de travail pour développer nos propres projets, pour avoir un espace d'expression professionnel, que ce soit pas seulement à l'occasion, que ça devienne vraiment un endroit important dans lequel on a les moyens de développer notre travail. Après, la ligne directrice, c'est de travailler sur les écritures contemporaines.
D'accord.
Ça peut prendre plein de formes. Ça peut être travailler avec des auteurs de théâtre. Ça peut être travailler sur des textes et d'en faire des adaptations, comme on l'évoquait tout à l'heure. Ça peut être aussi travailler à partir de matériaux a priori, qui sont pas faits pour être du théâtre, comme je pense par exemple à des articles de presse ou à des articles de, je sais pas moi, de Wikipédia, voilà, et de chercher à des endroits où se niche la théâtralité en fait. À quel endroit d'un texte, il y a de la théâtralité, c'est-à-dire il y a un potentiel de narration, d'oralité, de fiction même, à l'intérieur de faits divers. Et voilà, ça c'est des tentatives, là encore le laboratoire joue son rôle, c'est des expériences et des tentatives que moi je fais à partir de textes et avec les outils qui sont à ma disposition, c'est-à-dire le plateau de théâtre, la musique, mon corps de comédienne, le corps des autres comédiens s'il y a des partenaires, la lumière, la musique, voilà, tout ce qui peut faire aujourd'hui spectacle, ça fait les ingrédients des spectacles de Serre Chaude. Donc je sais pas si c'est un but en soi, mais c'est les outils qu'on utilise en tout cas, voilà.
Et dernière petite question, du coup, avant la première pause musicale, pour rebondir un peu à ce que vous disiez, est-ce que vous faites majoritairement de la création ou de l'adaptation ?
Bah, en fait, moi, je considère que l'adaptation, c'est de toute façon une forme de création.
D'accord.
C'est-à-dire que quand, en 2011, j'ai adapté L'Amant de Marguerite Duras pour deux actrices sur scène, il y avait forcément déjà un travail de création, puisque moi, j'ai passé beaucoup de temps à la table à composer le texte, qu'allait devenir le texte du spectacle. Et puis après, personne n'avait jamais monté L'Amant comme ça, donc c'était forcément, de toute façon, nouveau, c'était une création. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser des choses qui existent et puis les remodeler, les remanier un peu en fonction de ce que j'ai envie de raconter, un peu à la manière d'un sculpteur qui va avoir de la matière, de la glaise ou de l'argile ou je ne sais quoi, et puis qui va faire une forme, et puis finalement il va changer sa forme, il va faire un petit peu autre chose, et ça peut être évolutif. Ou les peintres qui retravaillent sans cesse leur peinture ou leur dessin. Voilà, moi je crois qu'on a beaucoup à apprendre des autres arts et que c'est hyper, hyper utile déjà d'aller au théâtre, d'aller voir ce que les autres font, mais d'aller aussi voir ce que les autres arts font. Travailler avec un musicien sur scène, par exemple, moi ça a fait changer beaucoup de choses dans mon travail, dans mon rapport au plateau. Donc ça, c'est une ouverture, c'est un gain, en fait. C'est une richesse pour le spectacle. Voilà.
Ou un peu comme un boucher avec un animal et qui en ferait un steak.
Ah ben voilà, tout se transforme.
Eh bien, je te laisse la parole, mon petit Alexandre.
Eh bien, oui, je vous propose à l'écoute Amy Winehouse, You're Wondering Now.
Et nous revoilà en direct dans votre émission Sortez sur Radio Campus 99.5. Toujours avec Alexandre. Là, je vais le dire, toute l'émission, je me rattrape de toutes les fois où je t'ai oublié. Et avec Coraline Cauchy, du coup, metteuse en scène et directrice artistique et comédienne pour Serre Chaude. Donc, nous étions justement en train de parler de cette compagnie. Et est-ce qu'il y a des projets mis en place pour plus tard ou en cours ?
Eh bien, là, évidemment, quand on est à la fin d'un parcours de création comme celui qui nous a occupé là, pour Bleu depuis... Bon, alors le travail en entier, ça remonte à plus de 2 ans et demi, mais on va dire depuis 1 an et demi, le travail de résidence et de répétition et voilà, de mise en place vraiment du spectacle. Quand on arrive à la fin de ce chemin-là, ben... voilà, il y a un petit coup d'arrêt, mais en fait, disons qu'il y a besoin de se repositionner pour relancer des choses pour la suite. Donc oui, là, je commence à penser à des choses pour la suite. Je peux pas trop en dire encore, mais oui, il y a des projets qui doivent se mettre en place. De toute façon, il faut rebondir. Quand on termine quelque chose, il faut. C'est toujours le début aussi d'autres choses, quoi. C'est un peu bête de dire ça, mais
une porte se ferme, une autre s'ouvre.
Exactement. Bon, là, c'est la fin de la phase de création, c'est le début du chemin de l'exploitation du spectacle, on espère des diffusions du spectacle, mais à côté de ça, il faut repartir en création. C'est important parce que les spectacles, ils n'ont pas de durée de vie limitée. Mmh. Mais comment dire, mon esprit cavale en fait, donc j'ai déjà d'autres idées, j'ai envie de continuer, j'ai envie de me remettre dans un travail de création, et donc ça devrait arriver, je pense, d'ici le mois d'avril-mai, de se remettre au travail.
Ah ouais, c'est rapide. Hein.
Bah ouais, mais parce qu'en fait, les choses prennent tellement de temps que si je commence en avril-mai, on peut raisonnablement estimer qu'un spectacle sera prêt pour la saison 2021-2022. Donc voilà, il faut s'y mettre maintenant si on veut que les choses aient un roulement à peu près tenable. Mais là, c'est vrai qu'un des enjeux, c'est quand même la diffusion des projets qui existent. Donc le spectacle Bleu pour le théâtre, et puis le groupe de Baptiste Dubreuil, le Veridube, qui va avoir quelques dates de tournée aussi dans la région, et pour lequel on espère qu'il y aura pareil de l'exploitation derrière et l'occasion de diffuser un peu en région et hors région, on espère. Voilà.
Évidemment, c'est ce qu'on souhaite.
Oui.
Et est-ce que vous avez déjà remarqué, vu une évolution au sein de la compagnie depuis le début?
Ben ouais, c'est sûr que de toute façon, avec la maturité, quand voilà, on commence à avoir une dizaine d'années d'expérience, moi là c'est ma 4e mise en scène, donc j'apprends d'une mise en scène sur l'autre, aussi à porter une équipe, à construire des projets de manière professionnelle, à bien tenir un calendrier de création, de production, à faire les choses dans le bon ordre. On est vraiment sur de la mini-entreprise, quoi. Hein. C'est ça, peut-être que c'est pas évident dans la tête des spectateurs et puis aussi dans la tête des jeunes comédiens qui voudraient devenir professionnels et puis qui voudraient après monter leur propre structure. Mais oui, cette phase-là administrative de montage de production, de montage de projet, c'est une partie très importante du travail et ben ça, en fait, ça s'apprend quand même un peu en faisant, quoi.
Ouais.
Et donc ça, évidemment, moi j'ai beaucoup appris, je pense que je me suis quand même un peu aguerrie à ce niveau-là. Et puis je le vois puisque le projet, là, il a été bien accompagné, que ce soit par les tutelles publiques, la DRAC, le ministère donc de la Culture, la région Centre-Val de Loire, et puis aussi la ville d'Orléans, la ville de Tours, qui est un partenaire très important pour nous sur cette création. Ça, c'est possible que si à un moment donné, eh ben, on rôde un peu un discours, qu'on sait à quelle porte cogner, et puis qu'on a des outils pour parler de son travail, des plaquettes de présentation, voilà, il n'y a pas quand même 36 000 façons de faire, quoi. Il faut être un petit peu proactif à ce niveau-là. Donc ça, c'est certainement la chose qui a le plus évolué en 10 ans. D'accord. Après, artistiquement, moi, j'ai affirmé des choses Je pense que j'ai développé puis affirmé une ligne esthétique qui était déjà à l'œuvre dans mes premiers spectacles, mais où là, voilà, je pense que la scénographie, la lumière, c'est des choses qui sont très importantes dans mon travail. Et puis maintenant, je veux pas du tout rogner là-dessus, quoi. Ça fait partie intégrante du spectacle, d'accord, au même titre que la prestation des comédiens, s'il y a plusieurs comédiens, ou ma prestation à moi sur Bleu. Voilà, c'est un ingrédient. La lumière, par exemple, c'est un ingrédient aussi important que l'interprétation ou que l'écriture du texte. Donc ça je l'ai affirmé. C'était peut-être un peu plus compliqué au début. Je disais peut-être plus oui, c'est le texte, c'est les comédiens le plus important. Mais aujourd'hui, je dis pas que les comédiens sont pas importants. Je dis pas que le travail d'interprétation est pas important, mais je dis qu'il est inclus dans un travail collectif avec les autres collaborateurs, et que c'est comme ça que j'ai envie de faire du théâtre, que c'est un art collectif. Et que moi, je suis beaucoup toute seule aussi quand je monte justement les productions. C'est moi qui suis la porteuse de projet, la meneuse de troupe, quoi, on va dire. À défaut d'être la meneuse de revue, je suis au moins la meneuse de troupe, quoi. Mais voilà. Et du coup, quand arrive le moment de la création artistique, quand on rentre en répétition, quand on a la chance d'avoir des résidences dans des lieux comme on a été accueilli cette année, que ce soit au Volapük ou à la salle Télème à l'université à Tours, ou là à l'atelier à spectacle de Vernouillet en Eure-et-Loire, quand on a le temps de se poser avec son équipe, avec le reste des collaborateurs, ben là la solitude, elle disparaît. Ouais. On est avec les autres et on sait pourquoi on a travaillé toute seule pendant 6 mois, et on a préparé le terrain, et on peut continuer à avancer, on peut franchir la marche suivante parce qu'on est ensemble, parce qu'on a une équipe derrière nous, quoi. Et ça, voilà, moi, c'est maintenant, c'est comme ça que j'ai envie de faire les projets, quoi. Ça, c'est un peu différent de quand je faisais les projets au début, quoi.
D'accord. J'aimerais bien revenir sur un point que vous avez évoqué. Vous parliez de vos partenaires.
Ouais.
Est-ce que certains de vos partenaires ont pu déjà vous bloquer dans certaines de vos créations ou autres, mettre des vétos ou autres ?
Les partenaires financiers ou les collaborateurs artistiques ?
Ou les deux, tiens.
Bah, les partenaires financiers, c'est pas vraiment, ils mettent pas des bâtons dans les roues, c'est que des fois les demandes de soutien n'aboutissent pas, et puis bah oui, forcément ça met un petit coup de stop à la création. Mais moi, globalement, je me sens plutôt accompagnée par les différentes personnes que je sollicite ou les différentes tutelles. En tout cas, j'ai jamais eu ça m'a jamais empêché d'aller au bout d'un projet.
D'accord.
J'ai jamais été carrément arrêtée dans une création par la défection d'un partenaire. Ça n'est jamais arrivé au point que ça handicape, oui, vraiment, vois, la création. Quant aux collaborateurs, c'est pareil, en fait. Jamais au point que ça mette en danger le travail. Après, eh ben, on est sur des rapports humains, donc des fois ça marche plus ou moins bien avec les gens. Des fois on travaille sur un projet avec eux et puis on fait pas le suivant. Des fois c'est pas parce qu'on fait pas le suivant avec eux que ça s'est mal passé sur le premier.
Ouais,
c'est, voilà, c'est assez c'est pas aléatoire, en fait, c'est simplement sur les nécessités, les besoins, les envies. Et puis moi, je crois beaucoup que le projet, c'est comme si c'était une entité un peu vivante, quoi. C'est un peu mystique ce que je dis, mais en fait, le projet, il a quelque chose à nous dire. Le projet, il existe en lui-même, il existe même en dehors de moi, en dehors de ma propre volonté. C'est-à-dire que moi, je fais en sorte, là encore, de planter des petites graines dans ma serre, et puis ça pousse, et à un moment donné, le projet, il grandit tout seul, quoi.
Oui.
Et le spectacle ou le projet, ça dépend à quelle étape on est, quoi. Quand il n'est pas encore réalisé, on peut parler de projet. Puis une fois qu'il est là, parlons de spectacle, puisque on n'est plus sur un projet, il existe, oui, quoi. Donc le spectacle, quand il est là, il nous dit de quoi il a besoin. Il a besoin d'un technicien lumière, il a besoin d'un technicien son, il a besoin de quelqu'un qui accompagne la création et la diffusion. Voilà. Et artistiquement, c'est pareil. On a besoin de temps, on a besoin de collaborateurs. Et moi, parfois, ça m'est arrivé de changer un peu mon fusil d'épaule ou mon couteau de main ou voilà, enfin ouais, de me faire surprendre par le projet en lui-même.
Oh, c'est cool, c'est cool, c'est cool.
Mais oui, parce qu'en fait, on prend une voix, on a des choses qui sont un peu, on écrit des choses sur nos cahiers, sur le papier, tout ça. Et puis, et quand on arrive dans les salles de travail, dans les salles de répétition, qu'on soit seul ou avec les collaborateurs, eh ben là, il y a des choses différentes qui se passent. Le vivant, le réel, il nous rattrape, il a forcément toujours plus raison que la théorie sur le papier, quoi. Donc, il faut savoir être à l'écoute de ça et il faut savoir réorienter son travail. Si le spectacle, il le demande, alors il ne faut pas avoir peur de modifier des choses ou de faire autrement que ce qu'on avait imaginé au départ, quoi. Donc, voilà.
C'est rare qu'on entende dire que c'est le spectacle qui parle et qui donne ses propres directives.
Ah bah ouais, mais... Ouais, mais si, moi, je crois vraiment que c'est ça, quoi. Et souvent, ben, là, comme je sors vraiment de la phase de création, et puis c'était un peu particulier, parce que comme je suis sur scène et que je fais aussi la mise en scène, alors, bon, des fois, je me mettais dans les gradins pour regarder la création lumière. Alors, ben, y avait Hélène qui voulait bien faire ma doublure pour que je me rende compte de l'image et puis du tableau esthétique que ça crée. Et puis je voyais bien qu'il y avait des choses qui nous plaisaient esthétiquement, qu'on avait envie de faire, on avait envie d'y aller, quoi, de créer une belle image, mais en fait clairement il fallait pas le faire, il faut pas le faire parce que le spectacle il le demandait pas, il y avait pas besoin d'alourdir, il y avait pas besoin je pense par exemple il y a un jeu de lumière avec des ombres qui serait possible, ça serait super joli, on adorerait, on sait que ça fonctionne, ça marcherait et tout. Et en fait, clairement, le spectacle, il n'a pas besoin de ça. Mmh. Et si on est suffisamment à l'écoute de ce qui se passe dans le travail de création, moi, je crois qu'on doit être capable de renoncer à ce qui pourrait presque être une facilité esthétique ou une facilité de mise en scène. On va se faire plaisir, on va faire un joli truc, et puis en fait, ça va alourdir, ça va verrouiller quelque chose. Peut-être même, ça va empêcher les spectateurs de rêver à quelque chose du spectacle. Parce qu'on va tout donner, on va tout prémâcher pour eux, quoi. Et moi, je veux pas ça. Moi, je veux que les gens, ils travaillent. Moi, je travaille... Toute l'équipe travaille et les spectateurs, je pense qu'au théâtre particulièrement, ils sont actifs. Oui. Déjà, ils sont là, ils sont dans la salle en même temps que nous, ils respirent en même temps que nous. Quand ils font du bruit, on les entend parfaitement bien. et donc, ils sont actifs. Et ils doivent être actifs émotionnellement, mais aussi intellectuellement. Enfin, moi, c'est ce que j'attends. Moi, c'est ce que je fais quand je suis spectatrice. C'est ce que j'attends qu'un spectacle me demande de faire aussi. Ça veut pas dire me prendre la tête et puis être complètement comme ça, à être bloqué par une compréhension qui me parviendrait pas, mais c'est quand même me mettre au travail, quoi. Me mettre en éveil, en tout cas, quoi.
Bah, pouvoir apprécier les non-dits et les réfléchir juste comme nous on le veut.
Parce exactement.
Que, comme ça permet aussi de... Bah, d'une personne à l'autre, ça n'a pas la même réflexion, quoi.
Le spectacle, il ne va pas donner des réponses. Mmh. Il va pas, c'est pas un exposé exhaustif sur une problématique. Je ne suis pas conférencière, voilà.
Oui.
Je fais un geste artistique qui a pour appui des éléments qui peuvent être des sujets de débat dans la société, etc. Bon, là, en l'occurrence, le rapport à la viande, le rapport au corps, le rapport à la chair... le rapport aux animaux du coup aussi puisqu'il s'agit d'un personnage de bouchère et qui commence à se poser peut-être un peu des questions sur comment est-ce qu'on mange de la viande aujourd'hui, pourquoi on en mange, est-ce qu'on doit continuer à faire comme ça. Voilà, donc évidemment que moi je ne vais pas donner les réponses, enfin en tout cas le personnage sur scène ne va pas donner de réponses, et moi, metteuse en scène, je ne vais pas non plus asséner, je ne fais pas du militantisme,
oui.
Ni d'un côté ni de l'autre. Encore une fois, je fais un geste artistique avec les outils qui sont à ma disposition, et si ça crée de la réflexion et de l'émotion, c'est hyper important pour moi, et de l'émotion, évidemment, eh ben, j'ai gagné, en fait.
Le contrat est rempli.
Ouais, le contrat est rempli, exactement.
Eh bien, dernière petite question sur au sujet de la compagnie avant de la prochaine pause musicale. C'est pas vraiment une question, c'est est-ce que vous pouvez un peu nous parler de la programmation de la compagnie, parce que vous ne faites pas que bleu.
Oui.
Vous faites autre chose.
Alors, ben, au sein de Serre Chaude, donc bon, là, voilà, on est très occupé par ce spectacle qui nous occupe un peu tout notre temps depuis le début de l'année, avec la création de musicale aussi, donc du Véridube, le spectacle de Baptiste Dubreuil qui réunit, ils sont 5 musiciens sur scène, plutôt issus de la scène jazz ou électro-jazz. Je vais les citer, mais je ne vais pas en oublier un seul. Baptiste Dubreuil au clavier, Stéphane Decolli à la basse, Nicolas Larminia à la batterie, David Sevestre au saxophone et DJ Nid au platine, accompagné d'un ingé son, Sébastien Bédrune, qui fait tout le travail justement de travail pour que ce soit bien beau, bien propre le son. Donc il va y avoir des dates de représentation de ce spectacle là aussi. Et à côté des spectacles, donc il y a tout un travail de médiation autour des spectacles. Donc moi je propose des stages ou des workshops sur des temps un peu plus courts autour du travail d'écriture de plateau, donc comment faire théâtre de tout. Voilà, ça c'est un des axes des stages que je peux proposer. Je propose aux stagiaires de venir et puis avec des textes, des extraits de romans, voilà, et on cherche à extraire le potentiel de jeu qui sont dans ces textes. Je suis intervenante en milieu scolaire, donc ça c'est important aussi, c'est une partie de l'activité pédagogique de la compagnie. Et puis il y a des projets de lecture musicale qui se déclinent aussi dans un rendez-vous hebdomadaire tous les deuxièmes mardis du mois. Se réunit ce qu'on pourrait appeler un cercle de lecture, donc c'est ouvert à tous, aux amateurs, à des professionnels qui ont envie de lire. Et l'idée, c'est de se réunir autour d'un thème que je donne d'un mois sur l'autre.
D'accord.
Et chacun ramène un petit extrait de texte. Alors ça peut être vraiment ce qu'on veut, ça peut être du roman, de la poésie, des essais, des articles de presse, encore une fois. Et les gens sont invités à lire à voix haute, pour le reste du groupe, l'extrait de texte qu'ils ont ramené, qui leur semble correspondre à la thématique que j'ai donnée. Donc ça a lieu au 108 Maison Bourgogne, à Orléans, qui est un lieu associatif où la compagnie a son siège social. Et c'est le temps régulier de la compagnie, c'est le rendez-vous mensuel de la compagnie.
D'accord. Voilà. Ben merci beaucoup, et puis c'est à toi DJ Alex.
Ok, DJ Alex.
Ah ouais, là je suis chaud.
Bon, bah, je vais mettre Black Eyed Peas du coup.
Oh, il est beau, ah, il est beau.
Je vais en mettre une avant, mais c'est ça part. Where is the love?
Trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate, and when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all.
People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And won't you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning.
Change. New days are strange. Is the world insane? If love and peace are so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nation
nations dropping bombs. Chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young. So ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on. Where's the truth, y'all? Come on,
I don't know.
Where's the love, y'all?
People killing, people dying, children hurting, and crying. When you practice what you preach, and what you turn the other cheek. Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love?
The world on my shoulder. As I'm getting older, your people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Yeah. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found. Now ask yourself,
where is the love? Where is the love? Where is the love? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love?
Sing with me, y'all.
One word, one word. We only got one word, one word. That's all we got. One word, one word. And something's wrong with it. Yeah. Something's wrong with it. Yeah. Something's wrong with the good word, word. Yeah. We only got one word, one word. That's all we got. One.
Et nous revoilà en direct dans notre émission Sortez, toujours avec DJ Alex. Et
ça y est, c'est validé.
Ça va me suivre, je veux pas que ça me suive.
Oh, on verra
c'est
ça.
C'est que pour les grandes occasions.
Promis, je ferai attention. Et du coup, Coraline de la compagnie Serre Chaude. Et donc, ça va être le moment maintenant de rentrer dans le vif du sujet, dans le cœur de la bête.
Ouais, carrément.
Avec ce spectacle bleu qui se déroulera le 30 janvier prochain, du coup, dans très peu de temps, au Petit Faucheux.
Ouais.
Donc déjà, c'est quoi bleu?
Bleu, c'est un spectacle donc de théâtre et de musique. Je veux pas dire théâtre musical parce que c'est pas vraiment ça. C'est vraiment la cohabitation amicale de la musique de Baptiste Dubreuil et du théâtre que moi je porte à travers le texte écrit par Clémence Veil. Et donc c'est l'histoire, si on doit résumer un peu l'histoire, c'est l'histoire d'une fille qui est sur un plateau de théâtre et qui va parler de son rapport à la viande, à la chair, mais par extension pas que à la chair des animaux, parce qu'on comprend qu'elle est bouchère, mais c'est pas vraiment une certitude, c'est pas vraiment dit. Elle fait des trucs sur le plateau qui laissent penser qu'elle est bouchère, mais bon. Est-ce qu'elle fait vrai? Déjà, c'est pas sûr que vraiment je travaille de la vraie viande. Alors ça, c'est bon. Voilà. Du coup, ça crée des ambiguïtés, des espaces pareils d'imaginaire pour le public dont on parlait tout à l'heure. Et donc, cette fille au plateau, elle va parler surtout de féminité en fait, de qu'est-ce que c'est être une femme dans ce monde aujourd'hui. Alors, dans ce monde au sens large, et puis aussi dans le monde de la boucherie, puisque, voilà, on le sait, c'est un peu un cliché, mais il n'y a quand même pas beaucoup de femmes qui sont bouchères. Alors, il y en a, puisque moi, j'en ai rencontré, et en particulier, il y a des jeunes femmes apprenties bouchères, ici, à Jouer-les-Tours, enfin, à Tours et au campus de Jouer-les-Tours, puisque j'ai travaillé depuis l'année dernière et encore cette année en collaboration avec le campus des métiers. Avec les élèves qui sont en brevet professionnel deuxième année. Donc c'est des jeunes qui ont déjà un CAP, qui se spécialisent avec encore 2 ans de formation dans le cadre du brevet professionnel. dans la classe avec qui je travaille, sur 24 jeunes, il y a 2 jeunes filles. Voilà. Et puis, surtout, il faut signaler que, au sein de leur équipe de formateurs, il y a une formatrice, Stéphanie 1, qui est une des rares formatrices en boucherie en France. Et donc, ils ont beaucoup de chance. Et voilà. Et je pense qu'ils font de la boucherie un peu différemment, finalement. Parce que si c'est peut-être une femme qui leur apprend les choses, et voilà.
Peut-être plus respectueusement.
Bah ça, oui. Alors de toute façon, ça c'est un truc qu'il faut développer partout, dans tous les contextes de la société, mais oui. En particulier dans les métiers qui sont comme ça, très genrés, très très clivés, quoi. On dit ça c'est un métier pour les hommes, ça c'est un métier pour les femmes. Voilà, c'est quand même pas mal de se re-questionner de pourquoi. Il y a des raisons historiques, il y a des raisons qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Par exemple, les lourdes charges à porter. Alors oui, les bouchers, ils ont encore des choses lourdes à porter, mais en fait, il y a tout un tas de systèmes aujourd'hui pour que ce soit plus le cas, pour que ce soit plus difficile. Puis moi, j'aime bien rappeler souvent qu'il existe des filles qui sont grandes et fortes, et puis des garçons qui sont petits et fluets, et que voilà, donc ça n'a rien à voir avec le genre de la personne. C'est simplement une volonté, et puis ça n'a rien à voir. Enfin voilà, on n'est pas boucher parce qu'on est un garçon. Et on n'est pas sage-femme parce qu'on est une fille. Enfin voilà, je crois qu'il est temps de dépasser ces clichés-là, quoi. Vraiment temps.
Donc justement, au-delà d'un spectacle, c'est un peu justement des réflexions sur plusieurs thèmes. Parce qu'il n'y a pas que ça comme thèmes qui sont évoqués du coup.
Ouais, en fait, le point de départ du spectacle, c'est ma rencontre avec un roman qui s'appelle « Comme une bête » de Joyce Orman, qui est vraiment l'histoire d'un jeune apprenti boucher, on le suit dans son apprentissage, etc. Ça m'avait beaucoup plu parce que Joyce Orman, elle a un regard documentaire sur quand elle écrit des romans, elle se renseigne beaucoup, elle était journaliste, donc on sent son intérêt comme ça pour la chose véridique, quoi, que ce soit juste ce qu'elle raconte. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à l'univers de la boucherie grâce au texte de Joyce Orman. Mais assez vite, en fait, j'ai eu le besoin de dépasser l'univers de la boucherie parce que je sentais que ce qui m'intéressait, c'était quand même le rapport à la chair, et c'est pas anodin quand même. Les bouchers, c'est pas comme des ébénistes, c'est des artisans. Les deux sont des artisans. Mmh. Mais la matière qu'ils travaillent, elle est quand même un peu différente, quoi. Hein, donc, et ça, ils en sont parfaitement conscients, d'ailleurs. Moi, tous les bouchers que j'ai rencontrés, ils ont un grand respect de l'animal, de la viande, qui sont deux choses différentes. Et ils savent parfaitement pourquoi et comment les choses se font. Et donc, moi, ça m'importait à un moment donné où peut-être la mode, ou c'est même pas une histoire de mode, mais il y a beaucoup d'interventions végétariennes ou véganes même, voire même des manifestations, des choses qui peuvent être un peu violentes aussi envers les bouchers ou envers les gens qui travaillent avec les animaux. Ça m'a interrogée beaucoup et je me suis... C'est pas que je veux redonner... C'est pas que je veux prendre la défense des bouchers ou quoi que ce soit, je veux juste me poser les bonnes questions, en fait. Donc je sais pas si je me...
Avoir un peu les deux versions, du coup.
Oui, voilà, c'est-à-dire que, ben oui, on n'a pas envie que les animaux y souffrent, et oui, c'est vrai qu'on voudrait tous que ça se passe, qu'on soit au pays des bisounours, et puis que, voilà, ça se passe très bien. Mais on est dans cette société-là, qui fonctionne avec tous ses travers, et les questions qu'on a à se poser, c'est... Est-ce que on veut que ça continue comme ça? Comment est-ce qu'on voudrait faire évoluer les choses? Et est-ce que c'est bien de se couper des animaux? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est la bonne voie de dire qu'il faut plus du tout élever et manger des animaux? Moi personnellement, j'ai un avis là-dessus et je pense que c'est pas une bonne voie. Aussi parce que pour travailler sur le spectacle, j'ai lu beaucoup de choses et j'ai lu en particulier le travail de Jocelyne Porcher, qui a été éleveuse de brebis et puis qui est devenue sociologue, chercheuse, qui s'intéresse à la question du travail entre les humains et les animaux d'élevage. Et elle a toute une pensée qui réhabilite vraiment la place de l'élevage, l'importance des animaux dans nos vies d'humains. Et que ce que prônent les véganes, c'est quand même de se couper d'une partie de cette humanité, finalement. Les animaux font notre humanité aussi. Et en voulant libérer les animaux, en disant il ne faut plus faire d'élevage, il ne faut plus manger les animaux, il faut même libérer les chiens et les chats domestiques. C'est carrément une voie qu'empruntent certains véganes. Pas tous, hein, mais ça peut aller jusque-là. Moi, je ne condamne pas ça. Hein, chacun est libre, vraiment, de penser ce qu'il veut. Mais moi, ça me questionne. Je me dis, mais alors... Alors ça veut dire qu'on vit plus avec les animaux, on va être coupé d'eux, quoi. Et je trouve que ça, c'est une question qui est au cœur de notre humanité et qui mérite de trouver à un moment donné sa place dans mon spectacle. Alors c'est ce que vous disiez tout à l'heure, le spectacle, il aborde beaucoup de questions, en fait. C'est le résultat d'un long processus de travail. C'est un spectacle que moi, j'ai mis presque 2 ans à écrire, à monter, en lien avec Clémence Veil, avec tout mon travail de recherche. Donc, évidemment, il y a un côté un peu millefeuille. Les différentes couches de recherche se sont accumulées, ont sédimenté. On est sur un effet comme ça, un peu millefeuille, et on ne donne pas les réponses à tout, et même des fois, on n'effleure que certaines problématiques. Mais c'est là, ça fait partie du terreau du spectacle. Et après, les gens, ils prendront ce qu'ils ont à prendre à l'intérieur de ça.
Bah, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, où le but, ce n'est pas d'avoir des réponses, et ce n'est pas une conférence.
Exactement.
On va dire des choses scientifiques, ça reste un spectacle avec tout l'imaginaire qui va autour.
Exactement. Et moi, la chose la plus importante, c'est que les gens, ils ressentent quelque chose, en fait, qu'ils vivent un moment sensible, en fait, un moment d'émotion, un moment où tous leurs sens sont éveillés, sont titillés, sont dérangés, peut-être. Et voilà, c'est ça qui m'importe. Après, si ça déclenche des questions intellectuelles, des prises de position chez les uns et chez les autres, tant mieux. Tant mieux ou tant pis. Enfin, ça m'appartient plus, en fait. À un moment donné, chacun est libre de s'emparer ou pas du projet et d'en faire autre chose pour lui, quoi. Donc voilà.
Très bien. Et du coup, justement, vous parliez du processus de création de cette pièce.
Ouais.
Est-ce que vous ou vos collaborateurs ont ressenti une évolution par rapport soit aux premières ébauches, aux premières idées, ou même depuis, et ça m'intéresse, la résidence? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements depuis la résidence en se disant « ça va plus, c'est plus possible » ?
Alors, en tout cas, pour les gens qui ont pu assister à des premières étapes de travail, puisqu'en fait, le fait qu'on ait été en résidence beaucoup à Tours nous a permis de présenter publiquement des étapes de travail, ce qu'on appelle les sorties de résidence. Alors voilà, on convie les spectateurs à venir assister à un petit bout du spectacle, à un début de quelque chose. Souvent, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de lumière. On est vraiment en recherche encore, quoi.
D'accord.
Donc les gens qui ont pu assister à ces étapes-là la saison dernière, je pense qu'ils vont être surpris, et j'espère agréablement surpris, par l'évolution esthétique en particulier du spectacle. Puisque là, on est arrivé à une phase où, évidemment, tout a convergé vers la scène, vers le plateau, pour que émerge un objet spectaculaire au sens strict du terme, c'est-à-dire un spectacle, quoi. Voilà. Donc là, oui, j'espère que l'évolution, elle est visible. Et puis, en termes d'écriture et de contenu et de thématique, ouais, les choses, elles ont forcément un peu évolué, puisque au fil du processus de construction du spectacle, il y a eu différentes étapes, ne serait-ce que dans le texte que Clémence Veil m'a confié. Il y a eu pas mal d'allers-retours entre elle et moi. Elle m'a envoyé une première version en novembre 2018, qui était une version qui n'était pas encore agencée dans une dramaturgie, on va dire ça comme ça. Et puis, c'était vraiment des fragments. On était un peu sur un mode puzzle, quoi. Et puis, en février-mars, elle a envoyé une deuxième version où les fragments de la version précédente trouvaient un ordre, une chronologie et trouver une architecture.
D'accord.
En fait, voilà, je vais y arriver comme ça. et du coup... il y avait un point A et un point Z, quoi. Enfin, on avait un arc narratif qui se développait, quoi. Et moi, une fois que cette étape-là a été franchie avec Clémence, je suis réintervenue sur le texte avec son accord. Hein, c'était la commande de départ. On s'était mises toutes les deux d'accord sur ce principe d'écriture pour réintégrer des éléments documentaires, en particulier ce que je disais sur les recherches de Jocelyne, de la fameuse Jocelyne Porcher, qui m'ont beaucoup intéressée, que voilà, qui n'était pas présent dans le texte de Clémence, et que moi j'avais envie de faire figurer dans le spectacle. Donc voilà, donc ça et ça, finalement, le texte définitif du spectacle, il s'est stabilisé au mois d'octobre, en fait.
Oui, donc c'est très récent.
Oui, c'est assez récent, puisque jusqu'à la fin. Moi, je me laissais la possibilité de faire bouger des séquences, des fragments, aussi parce que derrière arrivait le créateur lumière, le créateur sonore, puis qui toujours il y avait le musicien au plateau, que Baptiste il est en live, que il peut interagir. Il peut proposer lui des choses jusqu'à la dernière minute. Donc, ouais. Si d'un seul coup c'est plus pertinent d'avoir un morceau de musique plutôt qu'un texte, je dis les choses un peu bêtement comme ça, mais eh ben, je suis prête en fait à retirer un extrait de texte pour que cette chose-là, elle soit dite avec de la musique plutôt qu'avec des mots, quoi.
Je vois, oui.
Voilà. Ou avec de la musique et une scène muette avec moi sur scène qui va danser ou qui va déployer quelque chose de purement corporel. Si c'est plus pertinent, si c'est plus parlant, si aussi, encore une fois, le spectacle, dans son ensemble, le demande, c'est-à-dire qu'un spectacle, c'est aussi une question de rythme, c'est une question d'équilibre, on a besoin de relief, on a besoin de plein et de creux, on a besoin parfois de silence, on a besoin de vide, et voilà, et quand on a un texte qui fait 25 pages, et ben, des fois, il faut renoncer à certains morceaux du texte pour que, justement, les autres morceaux du texte auxquels on tient puissent émerger.
Et être mis en avant.
Ouais. Exactement, exactement. C'est un travail vraiment de peintre, de sculpteur, de trouver les bons reliefs pour que les choses soient audibles et entendables et recevables pour les spectateurs, qui, eux, n'ont pas un an et demi de travail
oui,
avec
forcément.
Moi, et qui vont venir pendant une heure et demie et qui vont recevoir ça, donc il faut que ce soit lisible pour eux, quoi. Voilà.
D'accord, très bien. Eh ben, merci beaucoup, Coraline, pour votre...
Merci à vous.
On va quand même rappeler tout ce qui est date et info pratique pour nos auditeurs.
Eh ben, alors, donc, on va jouer Bleu, le spectacle de théâtre au Petit Faucheux, jeudi 30 janvier, donc c'est-à-dire après-demain, à 19h30. Il reste des places. Vous pouvez envoyer un petit mail à Lorraine, qui vous répondra. un mail à réservation.serchaude@gmail.com. Et puis, si vous êtes très motivé et courageux, vous pouvez venir aussi le lendemain, le 31 janvier, toujours au Petit Faucheux, dans le cadre de la programmation du Petit Faucheux, pour écouter le Véridube en première partie de soirée, le groupe de Baptiste Dubreuil avec tous ses comparses que j'ai cités tout à l'heure. Voilà.
D'accord. Et comment vous retrouvez ? Vous avez une page Facebook, un site
On a
web.
Une page Facebook et puis on a un site qui fonctionne bien, serchaude.fr, que vous trouverez facilement sur les moteurs de recherche traditionnels. Et voilà, on est assez réactifs. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un petit mail et on vous répondra facilement. Voilà, je veux juste aussi citer la ville de Tours, que j'ai cité tout à l'heure, mais le label Rayon Frais, par lequel on est programmé au Petit Faucheux dans le cadre d'une mise à disposition de la salle. Et ça, c'est très important parce que on avait vraiment besoin de jouer ici à Tours. C'est une ville qui a beaucoup compté dans la création du spectacle. Donc pour nous, c'était très, très important et c'est très, on est très contents d'être là et de pouvoir montrer aux Tourangeaux et aux Tourangelles le résultat du travail qu'on a fait pour une bonne partie ici chez vous. Quoi. Donc, on vous espère.
D'accord. Bah, merci beaucoup. Et puis, rendez-vous le 30. Ouais. Je te laisse terminer avec les rappels de fin, mon petit Alexandre.
Les rappels de fin lesquels? Le podcast, tu veux dire?
Oui, c'est ça.
Ah, très bien.
C'est quoi? C'est où déjà, le podcast?
Eh bien, le fait est que le podcast sera mis en ligne dans 20 minutes, à peu près.
À peu près. On est doué. On est rapide.
sauf voilà, accident de notre part ou radio qui crame. Enfin,
j'allais le dire, la radio qui prend feu, ça on y peut
rien. Et puis sinon, rediffusion à 6h.
C'est ça,
demain matin.
Et là, on a quoi juste après, là, justement ?
RFI.
Exactement. Et juste après ?
D'ailleurs, on va. Le Ghetto Blast.
Ouais, bon, quand même. Pense à Mathilde. Big up à Mathilde.
Big up à Mathilde. Eh bien, au revoir, chers auditeurs.
Et à demain.
Radio Campus Tours 99.5
et sur internet radiocampustours.com.